RFI, grand reportage.
Sébastien Duhamel.
C'est une frégate du XVIIIe siècle et qui fut reconstruite à l'identique par une poignée de passionnés. Nous embarquons à bord de l'Hermione, ce navire sur lequel le marquis de Lafayette a traversé l'Atlantique en 1780 pour apporter le soutien de la France aux insurgés indépendantistes américains. Et aujourd'hui, c'est en Méditerranée qu'il vogue avec 80 marins venus du monde entier. Immersion à bord de cette Hermione entre histoire et aventure. Un grand reportage de Pierre Olivier.
C'est l'agitation du départ sur le pont de l'Hermione. La nuit tombe sur l'île de Porquerolles, près de Toulon. L'imposant trois-mâts va quitter la petite crique où il s'était abrité pour l'après-midi, direction le large. Mais avant cela, il faut relever l'ancre et hisser les 2200 mètres carrés de voile, le tout à la seule force des bras.
C'est pas trop lourd, puisqu'il y a beaucoup de bras qui aident et ça rend l'effort moindre.
La manœuvre dure 2 heures et 2 nuits.
De nuit, c'est un peu différent. Ouais. Il y a une ambiance un peu spéciale, on est tous concentrés, on essaie de bien se voir les uns les autres.
Elle est dans l'arguée, Juliette.
Celui qui donne les ordres ce soir, c'est Ryan Caracay. Ce Canadien est passionné de vieux navires. Ryan dirige les 80 marins à bord.
Là, ils sont en train de relever l'ancre. Tout se passe bien. Le navire, il tourne. Si vous regardez les lumières là, sur la terre, on tourne tout lentement. Et après, on va commencer à prendre la vitesse, petit à petit.
Allez, on revient vite.
L'obscurité est à présent totale. Sur le pont, aucune lumière n'est allumée. Comme au XVIIIe siècle, chacun doit habituer ses yeux à la nuit. Camille est l'un des matelots.
Les opérations se font juste à la lumière des étoiles et de la lune. Ça donne vraiment une jolie lumière et c'est génial. En fait, c'est surtout pour les veilleurs. Les veilleurs, ils ont besoin de voir les bateaux au loin. Et s'il y a de la lumière blanche, ils vont être éblouis, ils ne pourront rien voir. Donc il y a un entrain, un truc qui est chouette, quoi. Une bonne adrénaline de nuit. Ouais.
La lune éclaire les voiles de lin beige qui se gonflent doucement. L'immense navire de 1000 tonnes semble respirer et prendre vie. Ça y est, l'Hermione glisse sur la mer et fend l'obscurité.
On entend surtout le bruit des vagues, du vent, et ça donne un truc assez fabuleux. Après, la journée, on parle un peu plus fort, donc on va moins entendre les craquements, le bateau qui réagit. En fait, les bruits sont les mêmes, mais simplement, on est plus attentif à tout ce qui se passe la nuit, quoi. Parce que c'est aussi la sécurité, vu qu'on ne peut pas tout voir, on a les oreilles qui sont un peu attentives aussi, quoi.
Au pied du grand mât de 54 mètres de haut, Ryan est justement à l'écoute et fait respecter le silence.
Il faut être très réactif et écouter bien les ordres, parce que là, on a tout le monde sur le pont, effectivement. Chaque équipe, ils ont un rôle spécifique. Et s'il y a trop de bruit, s'il y a trop de personnes qui crient dans tous les sens, tout le manœuvre est foutu. C'est très difficile à comprendre.
Pour la civadière, on sera tribord à mur.
Pour éviter les incompréhensions, Ryan peut compter sur ses adjoints qui répètent les ordres, parfois avec un porte-voix aux marins. Des marins que l'on appelle des gabiers comme à l'époque. Thomas est l'un d'entre eux.
Donc le rôle de gabier, en fin de compte, c'est la manœuvre de toutes les voiles. C'est-à-dire qu'on est toujours au minimum une quinzaine ou une vingtaine sur le pont. Et on est là pour répondre à l'ordre de l'officier, pour manœuvrer l'ensemble du gréement et de la voilure.
Alors on se met pareil à brasser à tribord.
Forcément au début c'est toujours un petit peu difficile, mais après on s'y fait rapidement et puis de toute façon on est toujours beaucoup. Sur Hermione, qui a dit il n'y a pas longtemps, il y a le H et c'est vrai que l'humain c'est le plus important quoi. C'est l'âge du humain parce que tout seul on ne fait rien sur le bateau, donc c'est vraiment un travail d'équipe.
À quelques pas, une douzaine de gabiers terminent de hisser une voile. À la force des bras, ils font tourner le cabestan, une sorte de gros tambour autour duquel viennent s'enrouler les cordages.
Bah, c'est sûr que d'être 12 pour remonter un bout autour du cabestan, oui, aujourd'hui on fait pas trop ça sur les bateaux modernes, donc c'est sympa, ouais.
Il y a du lourd, mais on est ce qu'il faut là sur le cabestan et ça tourne facile. Toutes les manœuvres de voile, c'est comme au XVIIIe siècle. Et en fait, on se rend pas forcément compte, mais en fait, c'est comme un voyage dans le temps.
Un voyage dans le temps. Ce navire est une réplique exacte de l'Hermione, la frégate qui traversa l'océan Atlantique en 1780. À son bord, le marquis de Lafayette, venu apporter le soutien de la France aux insurgés américains, partisans de l'indépendance des colonies anglaises.
Journal de bord de Louis-René Madeleine Levasseur de la Touche, commandant de la frégate l'Hermione. Mercredi 17 mai 1780. La brume s'est tenue épaisse jusqu'à 11h du soir. À 11h30, le temps s'étant tout à fait éclairci, j'ai travaillé à relever mon ancre. Je suis sorti par la même passe par laquelle je suis rentré, laissant la longue île à tribord.
Ce soir, l'Hermione vogue quelque part sur la Méditerranée, au large de Toulon. Yann Cariou est le commandant du vaisseau.
L'Hermione, c'est l'équivalent d'un Rafale à la fin du 18e. C'est le summum de la technologie. C'est très performant. En retour, c'est très difficile à maîtriser, puisque c'est un bateau qui est très toilé, qui est très rapide. Donc la machine s'emballe assez vite. Les frégates ont un rôle d'éclaireur des escadres. Voilà, c'est un peu le navire à tout faire et qui doit aussi pouvoir chasser tout ce qu'il y a sur mer. Corsaires, pirates, etc. Il y en a plein à l'époque. Les corsaires, c'est infesté de corsaires, notamment autour des côtes françaises du golfe de Gascogne, ici aussi d'ailleurs en Méditerranée. Et la particularité de l'Hermione, c'est qu'à l'époque, elle a été plus rapide que tous les autres à qui elle s'est comparée.
L'Hermione est construite à la fin du XVIIIe siècle et c'est vraiment un condensé de toutes les techniques qui ont été mises au point dans la navigation.
Philippe Audrère est historien de la Marine Royale.
Par exemple, la dernière invention que l'on a faite, c'est de doubler la coque avec des plaques de cuivre. Pourquoi des plaques de cuivre? Parce que quand ces navires se rendent dans les pays chauds, bien sûr, il y a des animaux, il y a des carrés qui viennent manger le bois et à la longue, ça crée des voies d'eau, ça crée des ennuis. Alors, on a trouvé de revêtir de ces plaques de cuivre. Il y a un autre avantage, c'est que quand on navigue dans ces mers chaudes, il y a aussi des algues, il y a des animaux, des moules, par exemple, qui se fixent, etc. Eh bien, si vous voulez, ça permet d'avoir une meilleure vitesse, une meilleure pénétration dans l'eau, hein, tandis qu'autrement, quand il y a des algues, etc., le bateau avance moins vite.
Debout, près de la barre, le commandant regarde les prévisions météo pour la nuit, des informations que n'avaient pas les marins en 1780.
Le seul avantage qu'on ait par rapport au 18e, c'est qu'on a la météorologie, on a des prévisions météo. Et on a aussi une connaissance de la météorologie qu'ils n'avaient pas. Vous vous rendez compte qu'ils n'avaient même pas de baromètre sur ces bateaux-là. Donc pour nous, c'est un avantage, puisque du coup, ça compense le nombre. Parce que, ok, on est moins nombreux, mais on peut s'y prendre 24 heures avant ou 2 jours avant. Là, par exemple, pour diminuer la voilure, il nous faut 2 heures à 3 heures. À l'époque, je pense qu'il leur fallait un quart d'heure, 20 minutes, quoi. Et ils avaient 200 bonhommes dans la mature qui faisaient que ça.
200 hommes à l'époque contre 80 aujourd'hui. Le jour se lève sur la Méditerranée. À perte de vue, la mer infinie. Dans le ciel, des nuages noirs et menaçants se sont formés. À la radio, la météo marine n'est pas bonne. On annonce des vents supérieurs à 100 km/h.
Avis de fort coup de vent à tempête de sud-ouest en cours.
Soudain, un éclair déchire le ciel. Une tempête frappe l'Hermione et l'équipage. Sadjo est une gabière ivoirienne. C'est la première fois qu'elle vit ce genre d'événement.
Alors là, c'est comme une situation d'urgence. Tout le monde sur le pont. Il y a une tempête. Et bon, voilà, tout le monde en ciré. Et là, on va mouiller le maillot comme les ivoiriennes le dire. Donc on va faire des manœuvres, tirer ici, choquer là, même sous la pluie.
Des paquets de mer s'écrasent sur le pont. Il est difficile de communiquer. Le vent emporte les cris des marins perchés dans les mâts. Sous une pluie diluvienne, le commandant et les officiers ont les yeux rivés sur l'anémomètre qui indique la puissance du vent.
On est à 55 nœuds, ça fait plus de 100 km/h. Ouais, c'est une tempête, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps.
Nous, on a l'habitude. On sait, après, en Méditerranée, les vents sont capricieux. Donc, bon, voilà, c'est comme ça. Il n'y a que à attendre et être patient.
Notre jeunesse est en mal d'aventure. Et là, on en a.
À l'intérieur du bateau, dans les dortoirs, c'est l'inondation.
En gros, tout ce qui traînait par terre est trempé, quoi. Ça, c'est clair. On va écoper ça, quoi. On va lui enlever avec des seaux. Mais j'avoue, c'est impressionnant. En 4 ans, c'est la première fois que je vois ça ici, dans les dortoirs.
Le bateau de 65 mètres de long est brinque-ballé dans tous les sens, tel une coquille de noix pris dans des vagues de plus de 6 mètres. Dans leur couchette, certains marins ne peuvent plus bouger. Ils sont terrassés par le mal de mer. C'est le cas d'Achim, un jeune béninois.
Le mal de mer, c'est...
le ventre qui tourne déjà, l'estomac qui tourne tout le temps, l'envie de vomir, la nausée, tout à coup vous perdez toute la force qu'il y a en vous. Vous n'avez plus envie de rien en fait, de rien faire, de rien manger, de rien dire. Vous n'avez plus envie de rien, juste de vous coucher et que ça passe. Mais ça passe pas malheureusement, tant que le bateau continue par tanguer, ça persiste. Et on est parti pour l'aventure, j'adore l'aventure, mais ce que j'ai vu ici, je ne l'avais jamais vécu avant. En tout cas, ça permet de repenser à sa condition d'humain.
Mercredi 13 février 1782. La mer est très grosse, le temps sombre et par grains de la plus grande violence. À 6h30 du matin, dans un fort roulis, j'ai dématé de mon grand mât de hune. À 10h, j'ai gouverné à l'est, fuyant sous la misaine.
En Méditerranée, le temps se calme à présent.
Bah, essaye, tu tentes et puis tu vois ce que ça donne.
Sur le pont, assis en tailleur, un petit groupe discute et rafistole les voiles endommagées par le vent.
Bah là, tu peux arriver quand même à le coudre et qu'ils se tiennent, quoi, ouais. Si vraiment tu veux savoir encore. On est 80 sur un bateau, c'est un petit espace, donc on se côtoie, on apprend à vivre ensemble. Du coup, c'est une équipe, quoi. On prend soin des autres, on regarde si tout le monde est en sécurité, si les gens vont bien, si les gens se sentent bien, quoi. Donc voilà, c'est du vivre ensemble, quoi.
Personnellement, ça m'apaise. Ça m'apaise beaucoup. Et si ça va bien, quoi. Voilà, je ne rouspète pas, je râle pas, je ne suis pas en colère, je dis oui. À travers la mer et ces expériences-là, on apprend, comment dire, à obéir aux ordres. Ça, c'est un truc qui m'a vraiment transformé, on va dire.
Alors moi, c'est marrant parce que je suis venu sur l'Hermione vraiment pour le bateau, parce que j'ai trouvé que c'était un super bateau, que c'est très chouette de faire de la voile, machin. Et en fait, j'ai très vite oublié le bateau pour plus penser aux gens. On a tendance à oublier quand on est dessus qu'on est sur une frégate. Mais par contre, les gens, on les oublie pas et on rencontre des gens qui sont assez incroyables. Et vu qu'on vit avec, ils sont constamment à nos côtés. Et, ouais, c'est des très jolies rencontres qui sont là.
Des rencontres humaines, mais aussi parfois des têtes à tête plus inattendues.
Baleine à tribord.
Ah ouais, il y a une baleine, non?
Ouais. Il y a une baleine. La dernière fois que j'ai vu des baleines, c'était au Canada. Donc c'est sympa de les voir en Méditerranée, on voit le souffler là, juste là.
De beaux souvenirs qui créent des liens forts entre les marins. Il faut dire aussi que la promiscuité à bord de l'Hermione rapproche forcément. C'est le cas dans les dortoirs confinés dans l'entrepont du navire.
C'est tout en longueur, donc d'un côté il y a des bannettes, et de l'autre côté il y a tout ce qui est coffre. Et entre les coffres, en fin de compte, il y a des hamacs qui sont suspendus. Et en hauteur, on est obligé d'être baissé parce qu'il y a des poutres partout. Et on a à peu près, je sais pas, 1,50 m, je pense, de hauteur. Ça va, on arrive à vivre tous ensemble, quoi. Ouais. Après, on a des petites sanitaires, des petites douches pour l'ensemble de l'équipage.
On est proche de tout le monde dans le couloir. De toute façon, on se lève pas, on sent tous mauvais. Donc,
quand je regardais si tes affaires étaient bien amarrées, il y avait des sacs de vomi derrière.
On a tout mélangé ensemble.
Des conditions de vie proches de celles que connaissaient les marins au XVIIIe siècle. Philippe Audrey.
Alors l'entrepont, c'est où l'équipage est installé, où il a ses hamacs, où il peut coucher. C'est assez humide, c'est très bruyant, très très bruyant, parce que, bon, il y a ceux qui discutent quand même, hein, ceux qui ne dorment pas et qui discutent. Il y a des animaux, il y a des animaux vivants. Hein, des animaux vivants à bord. Et en général, il y a un parc à moutons, à 2 étages. Alors bien sûr, au fur et à mesure du voyage, les moutons seront mangés, donc il y en a de moins en moins. Il y a des vaches, hein. Une vache pour avoir du lait pour les malades. Et d'autre part, il y a des bagages quand même, ils ont des sacs, etc. Il y a toute une accumulation, n'est-ce pas? Et en plus, eh bien, on ne voit pas grand-chose dans l'entrepont. Il y a peu de lumière. Hein. Vous avez vu sur l'Hermione, quand les sabords sont fermés, on y voit goutte. Hein.
Ça sonne le premier service.
trois coups, un coup, premier service, trois coups, deux coups, deuxième service.
C'est l'heure du déjeuner.
C'est deux croque-monsieur par personne.
Sur les tables, des tasseaux de bois empêchent les assiettes et les verres de glisser. Dans la cale, entre deux cuissons, Nadir, le cuisinier, doit composer avec la gîte du navire.
Bah tu vois, là, j'ai le beurre qui part tout au fond de la sauteuse. Faites que ça penche, si tu veux faire une quiche ou un gratin, bah t'as toute ta quiche d'un côté du plat et rien de l'autre. Du coup, ça se pense à l'avance, quoi. Voilà.
À la fin du XVIIIe siècle, les hommes sont bien nourris hein, dans l'ensemble. Hein. C'est une ration alimentaire même supérieure à ce que nous avons, nous. C'est peut-être l'équilibre de la ration alimentaire qui n'est pas satisfaisant, mais la quantité de nourriture est satisfaisante.
Philippe Audrère, historien de la marine royale.
La base de la nourriture, c'est le pain. Chaque jour, on essaie d'avoir du pain qui est fraîchement cuit. Il y a un four à pain à bord du navire, et derrière, un four à pâtisserie aussi, hein, pour les jours de fête. Ensuite, eh bien, il y a ce qui accompagne le pain. Alors, on mange beaucoup de viande. Souvent de la viande salée, du bœuf salé. Hein. L'avantage, c'est que ça se garde pas mal. L'inconvénient, c'est que c'est très salé, hein, donc ça oblige à boire, etc. Hein. Il faut une eau de bonne qualité. Ça, c'est extrêmement important pour la santé. Hein. On la conserve dans des tonneaux. L'eau se conserve pas très bien. Alors, on filtre l'eau. Hein, c'est-à-dire qu'on prend une toile à voile et on verse l'eau donc pour filtrer. Mais vous savez, il y a des descriptions qui ne sont pas ragoûtantes du tout. Hein. Y en a qui disent, oui, il y a des gros vers blancs dans cette eau qu'on boit. Bon. Et l'inconvénient, c'est que tout ça, ça entraîne des maladies. Les taux de mortalité sur les navires qui font des longs voyages vers l'Amérique ou vers l'Asie, c'est du 14% hein, à peu près. Hein. Et ce sont des hommes jeunes quand même. Hein. Donc, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, c'est vraiment catastrophique. Hein.
Ça va se casser les figures, ça.
Aujourd'hui, plus personne ne meurt à bord. Au contraire, c'est le vivre ensemble qui prime. Cette année, l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, s'est associée avec l'Hermione pour faire naviguer ensemble des jeunes venus du monde entier. Attablés devant un bol de soupe, nous retrouvons Sadjo. Elle vient de Côte d'Ivoire. Ses yeux pétillent lorsqu'elle évoque son aventure en mer.
On est arrivé et quand on ne connaissait pas tout le monde, surtout le monde qui avait été recruté par l'OIF venant d'Afrique, on avait tendance instinctivement à se mettre ensemble. Donc on pouvait tous occuper par exemple une table. Et là il y avait la Côte d'Ivoire, le Niger, le Bénin, c'était l'Afrique de l'Ouest quoi. Et au fur et à mesure de l'aventure, après s'être côtoyé quelques jours, après s'être réveillé, après avoir nettoyé ensemble les toilettes, après avoir fait des oh-his ensemble, il y a eu ces métissages. Ce melting pot, il y a des connexions très fortes qui se créent.
Il y a quelqu'un qui disait, voyager sans rencontrer l'autre, ce n'est pas voyager, c'est se déplacer. Et nous, on a vraiment voyagé.
On arrive à Marseille dans quelques minutes. C'est toujours assez agréable de voir la terre après avoir passé quelques jours en mer. On savoure plus peut-être, on a plus le temps de se faire à l'idée qu'on va arriver ailleurs. Attendons de voir.
Perché sur sa colline, Notre-Dame de la Garde apparaît. Ça y est, l'Hermione majestueuse entre dans le vieux port de Marseille au son des canons. Sur les remparts, des milliers de personnes sont venues admirer le trois-mâts. Après son expérience vécue sur l'Hermione, voir tout ce monde rassemblé inspire une réflexion à Francis, venu du Togo.
Il va falloir étendre cette manière de vivre ensemble à l'échelle planétaire parce que nous sommes pratiquement 80 à 90 personnes à bord, de nationalités différentes. Si on arrive vraiment à s'entendre sur un espace aussi réduit qu'un bateau, la terre qui est si grande que nous occupe tous, on peut vivre quand même ensemble pour faire preuve de tolérance, comprendre l'autre, et je pense qu'avec ça, on ira vers un monde meilleur.
Immersion à bord de l'Hermione entre histoire et aventure, un grand reportage de Pierre Chaffanjon et Pierre Olivier.